On va ouvrir nos Bibles et on va continuer notre lecture dans Philippiens. Et aujourd'hui, on va regarder dans le chapitre 3 de Philippiens, des versets 12 jusqu'au premier verset du chapitre 4. Et c'est sur la page 772 de vos Bibles. Donc Philippiens chapitre 3, à partir du verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc, qui sommes mûrs, adoptons cette attitude. Et si vous êtes d'un autre avis sur un point, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, là où nous en sommes, marchons dans la même direction. Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. En effet, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé d'eux, et je le fais maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. C'est pourquoi, mes très chers frères et sœurs, que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et ma couronne, tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés.
Prions pour commencer, si vous voulez bien. Père Céleste, merci de ce que ta parole nous reprend toujours bien à propos. Permets que ce passage puisse faire son effet en nous, pour notre sécurité et pour la gloire de Christ. C'est dans son nom que nous prions. Amen. Qu'est-ce qui nous retient d'attendre impatiemment la résurrection des morts ? Eh bien, pour en arriver à la résurrection des morts, il faut passer par la mort. Et vous demander d'aspirer à un passage par la mort, c'est beaucoup demandé. Si un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, alors la vie présente représente beaucoup moins d'inconnus. Attendre impatiemment le jour de ma mort, qu'est-ce que vous en dites ? Au verset 21 du premier chapitre de cet épître de Paul aux Philippiens, on trouve ces paroles. « Christ est ma vie ». Et mourir m'est un gain. Dans cette lettre, Paul se donne en exemple. Paul veut être imité dans son état d'esprit par tous les saints qui sont en Christ. Voyez en effet au chapitre 3, le verset 17. « Soyez tous mes imitateurs. » Alors pour ceux d'entre vous qui se disent chrétiens, si vous avez assisté au précédent exposé, vous avez pu méditer le discours de Paul jusque-là. Vous aurez fait du chemin. Christ est ma vie, oui, pourquoi pas, s'il le faut. Mais mourir m'est un gain, qu'est-ce que vous en dites ? Sauf que si Christ est ma vie est la seule composante de notre état d'esprit, on reste exposé. Exposé aux influences du monde. On restera alors toujours susceptible de réduire la voilure dans la vie chrétienne quand on voit la tempête arriver sous forme de persécution, d'opposition, ou d'affliction. Christ est ma vie ici-bas, oui, et aussi mourir m'est un gain. Car si cette vie est la seule chose qui occupe notre horizon, on risque de rater le coche, tellement occupé qu'on sera à s'affairer ici et là, au service de Christ ainsi qu'à sauver notre peau. Je vais vous raconter une anecdote à ce sujet. Le contexte, c'est la bataille de Mühlberg, bataille qui se déroule en avril 1547. Bataille dont les troupes de Charles Quint, empereur du Saint-Empire romain germanique, sortent victorieuses. La petite histoire veut que Charles Quint ait ensuite interrogé un de ses généraux, le duc d'Albe, à propos de l'éclipse solaire qui aurait soi-disant eu lieu au cours de cette même bataille. Et voilà ce que le duc d'Albe aurait répondu à l'empereur. « J'avais trop à faire ici-bas pour lever les yeux au ciel. » J'avais trop à faire ici-bas pour lever les yeux au ciel. Et on ne sait pas du coup si l'éclipse solaire a eu lieu ou pas. Qu'il n'en soit pas ainsi pour nous autres chrétiens. Investissons-nous au service de Christ ici-bas et aussi ayons la tête tournée vers le haut, vers la cité céleste, où Christ règne déjà. Et du coup, on aura tout à gagner et rien à perdre. On aura de la robustesse parce que nos esprits seront disposés de deux manières. Christ est ma vie, cet élément est développé à partir de 1,27 jusqu'à 2,30. Et ensuite, mourir m'est un gain, ce deuxième élément qui nous est présenté de 3,1 à 4,1. Ce deuxième élément est d'abord établi dans sa substance, les 11 premiers versets du chapitre 3, avant d'être approprié. Et dans notre passage d'aujourd'hui, effectivement, on voit que Paul s'approprie cet état d'esprit et il invite tout autre chrétien à adopter cet état d'esprit pour soi-même. C'est notre premier point à partir des versets 12 à 16. Voyez le verset 15. Nous tous donc qui sommes mûrs, adoptons cette attitude. À quoi est-ce que ça va ressembler d'adopter cet état d'esprit pour nous-mêmes ? Verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. Voilà un coureur qui sait que la course n'est pas finie. Quelle erreur tragique ça serait de penser qu'on est arrivé. Quelle erreur ça serait de penser que ce monde-ci est l'horizon ultime. Puis verset 13. Oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours. Voilà un coureur qui refuse de modérer sa course. Quelle erreur ça serait de regarder à droite, à gauche et en arrière. Quelle erreur ça serait de tuer le temps et tergiverser. Est-ce que vous faites face à la tentation de ralentir le rythme dans la vie chrétienne? Quand on vous oppose, quand c'est long, quand c'est dur. On a en Paul un coureur qui va de l'avant, quand bien même la mort l'attend au tournant. Paul s'expose en effet à toutes sortes de souffrances pour Christ. Et il le fait parce qu'il attend impatiemment la résurrection des morts. Il attend cette nouvelle création que Christ a déjà inaugurée. Demandez-vous ça, si vous n'attendez pas impatiemment la résurrection des morts, vous n'allez pas vous exposer non plus, n'est-ce pas? Et ça, c'est dangereux. Voyez le ton que Paul utilise au verset 15 et 16. Paul encourage fortement, très fortement même, chacun à s'approprier cet état d'esprit. Je peux vous assurer que personne ne naît avec la conviction que mourir m'est un gain. C'est bien plutôt une idée qui doit être délibérément implantée. Autrement dit, c'est une démarche proactive que Paul nous invite. Et s'approprier quelque chose, c'est aussi l'exercer. Ce dont Paul parle ici, c'est l'affaire de toute une vie. Vous voyez donc, pour Paul, il n'y a pas d'alternative. Il faut courir et courir encore. Alors voilà pour la démarche. Mais est-ce qu'il s'agit de courir pour courir, tel Forrest Gump, sans but précis? Eh bien non. Quelle est donc la destination? Voyez le verset 12 qui parle de la perfection de Christ, notre vocation céleste. Ou encore le verset 14 qui dit la même chose avec d'autres mots. Le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Un tel prix, est-ce que ça nous motive à courir, nous autres? Est-ce qu'on dit si c'est que ça qui nous attend? Ça ne vaut pas vraiment le coup de se presser. On peut batifoler à droite, à gauche. Ayons une vie bien remplie. Maison, carrière et tous les à côté. Faisons durer le plaisir et la réunion à Christ, ça viendra bien assez tôt. Est-ce que ça vous arrive de penser que la vie éternelle, c'est du bonus? Est-ce que ça vous arrive de penser que la vie éternelle, c'est la cerise sur le gâteau? Or, si Paul court encore, c'est bien que ça n'est pas la cerise sur le gâteau. La vie éternelle, c'est le gâteau. Peut-être qu'on ne court pas comme Paul court parce qu'on est finalement très satisfait ici-bas. Ce qu'on a ou ce qu'on est sur le point d'avoir, on n'est pas prêt de le compromettre pour Christ. Ces sujets de fierté qui sont les nôtres ici-bas sont bien trop précieux à nos yeux. Là où nous sommes arrivés, nous voulons nous poser et consolider. Pensez à Marlene, ce poisson du film bien connu, qui confesse ceci à propos de sa progéniture, Nemo. Je me suis promis de ne jamais rien lui laisser arriver. C'est bien souvent ce qu'on veut pour nous autres. En arriver à cette position à laquelle on aspire, cette qualification, ce CDI, cette promotion, ce statut, et ensuite, ne plus toucher à rien. Nous autres, on cherche à savourer la cerise à tout prix et faire durer le plaisir. Se rendre compte qu'on n'a pas encore attaqué le gâteau, ça demande un changement de perspective. Vous avez peut-être déjà entendu cette réflexion de C.S. Lewis. Il comparait les chrétiens de sa génération à des enfants qui font des pâtés de sable dans un bidonville et qui s'en satisfont tout à fait, sans se rendre compte de l'offre que pourraient être des vacances à la mer, en bord de plage. Nous autres, c'est la même chose, on se satisfait trop facilement ici-bas. Et du coup, on est réticent à suivre Paul dans sa démarche chrétienne radicale, quitte à tout perdre ici-bas. Mais courir ou ne pas courir, est-ce qu'on a le choix? En tant que chrétien, je vais de l'avant vers Christ. Pourquoi? Verset 12, « Puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. » Vous voyez, le chrétien court parce que Jésus-Christ s'est emparé de lui. Christ nous a empoignés et donc nous empoignons cette vocation céleste qui est la nôtre. Courir, c'est donc la position de défaut, si nous sommes chrétiens. On va faire tout effort pour rentrer dans cette union avec Christ, parce que Christ a décidé de notre union avec lui. Et dans ce contexte, on n'est pas surpris que Paul exclue qu'un chrétien puisse faire autre chose qu'avancer. C'est ce qu'il dit au verset 15 et 16. Lisons-les ensemble. Nous tous donc qui sommes mûrs, adoptons cette attitude. Et si vous êtes d'un autre avis sur un point, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, là où nous en sommes, marchons dans la même direction. Il est impensable de s'arrêter. S'arrêter, ça serait refuser de saisir ce que Christ va nous donner sous peu. En gros, ça reviendrait à dire « je ne suis pas vraiment intéressé ». Pas pour le moment, en tout cas. C'est se détourner de ce don précieux pour lequel Christ est allé mourir. Impensable. À quoi ressemble notre vie chrétienne aujourd'hui? Est-ce que c'est toujours la course ou est-ce que c'est plutôt tranquille? Et n'évoquons pas ici notre zèle quand nous étions en France, sur nos campus, dans des rassemblements chrétiens, dans d'autres contextes. Ce n'est pas parce qu'on a couru un temps qu'on court encore. Si vous n'êtes pas conscient de courir, je vois deux possibilités. Soit vous êtes un excellent coureur, et donc il en faut beaucoup pour vous faire transpirer. Alors peut-être augmentez le rythme, faites un peu plus de vagues là où Dieu vous a placé. L'autre possibilité, c'est que vous ne courez pas vraiment. Or, ces versets affirment qu'il nous faut adopter cet état d'esprit radical pour nous-mêmes. Personne d'autre ne peut faire cela pour nous. C'est à nous de prendre nos esprits en charge pour notre sécurité et pour la gloire de Christ. Alors si au verset 12 à 16, Paul se projette en avant, à partir du verset 17, Paul se projette vers le haut. C'est notre deuxième point. Ensemble, les chrétiens doivent disposer leurs esprits et regarder vers le haut. Regarder vers le haut, c'est regarder à Christ, sa justice et la résurrection des morts qui nous sera donnée. Les éléments qui ont été développés aux 11 premiers versets de ce chapitre 3. Et par contraste, regarder en bas, c'est regarder aux réalités de ce monde. Je précise ensemble, regardez en haut ensemble, parce qu'on n'est pas tout seul. Regardez le verset 13, frères et sœurs. Verset 15, nous tous. Verset 17, frères et sœurs. Chapitre 4, verset 1, mes très chers frères et sœurs. On n'est pas tout seul dans cette affaire, Dieu merci. C'est ensemble qu'on va s'efforcer de regarder aux choses d'en haut. Mais cette collégialité peut être une source de réconfort comme elle peut être une source d'amertume. Ces quelques versets font en effet état de perspectives différentes et de trajectoires différentes. Regardons les perspectives d'abord. Verset 17, portez les regards sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. ce qu'il faut imiter chez Paul, c'est la façon dont ses yeux à lui sont fixés là-haut. À la différence des yeux d'autres personnes qui s'attardent ici-bas à leur grand péril. Verset 18. En effet, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Je vous ai souvent parlé d'eux et je le fais maintenant encore en pleurant. S'il y a des pleurs dans les yeux de Paul, c'est parce que ces quelques personnes qui ont détourné leur regard des choses en haut sont d'anciens chrétiens. Paul pleure à leur sujet. Qu'est-ce que ça nous apprend ? Le fait qu'un chrétien soit bien engagé aujourd'hui ne garantit pas qu'il sera engagé plus tard. D'où l'importance de regarder au bon endroit et de continuer à le faire. En effet, la mauvaise perspective mènerait le chrétien, si c'était possible, vers une trajectoire tragique. On le sait bien, après tout, le funambule qui passe son temps à regarder à droite va basculer vers la droite. Ou celui qui conduit une voiture sans regarder là où il faut va finir dans le fossé. C'était les perspectives. Regardons maintenant les trajectoires. Une trajectoire de perdition en particulier, c'est à ça que Paul nous sensibilise. Verset 19. Leur fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Gloire et confort, jusqu'ici, tout va bien. Mais les apparences sont trompeuses. Le parcours agréable se révélera être une trajectoire mortelle. Car si on n'est pas prêt à prendre sur nous de plein fouet les souffrances que Christ nous réserve, eh bien on fera demi-tour à un moment ou un autre, plus ou moins discrètement. Et après tout, c'est ça, se conduire en ennemi de la croix, c'est faire demi-tour à un moment ou un autre face au lot de souffrances qui nous attend pour Christ. Chapitre 1, verset 29, vous vous en souvenez, il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. Et du coup, les personnes dont parle Paul au verset 19 ne vont pas être trouvées en Christ. Elles n'auront pas vu ce réseau de ficelles, de sangles, d'attaches, de brides qui vont les retenir ici-bas. Et le jour venu, ce réseau-là les empêchera de prendre de la hauteur et de quitter ce monde qui est lui aussi voué à la destruction. Le fait qu'il soit question de trajectoire dans ces versets, je crois que c'est un avertissement pour nous autres. En effet, je ne serais pas surpris si certains d'entre vous dissociaient leur futur de leur présent. Je m'explique. C'est très facile de dissocier notre salut futur de notre vie chrétienne, notre occupation présente. Et là où ces versets nous avertissent, c'est quand ils nous montrent qu'il y a plus de continuité qu'on ne voudrait le croire entre notre vie chrétienne et notre salut final. Mais Dieu merci, la trajectoire du verset 19 n'est pas la seule trajectoire qui existe. Et Paul l'affirme avec beaucoup d'emphase. Versets 20 et 21. Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. Est-ce que vous avez déjà entendu cette expression « promotion à la gloire » ? Elle est assez courante dans certains milieux, en particulier dans l'armée du salut. Un tel a été promu à la gloire, les obsèques auront lieu jeudi. Être promu à la gloire. Est-ce que vous y croyez vraiment à cette description? Et pourquoi pas? On parle beaucoup trop peu dans nos cercles chrétiens des réalités célestes. Et on s'enthousiasme bien trop peu à ce sujet. En partie, c'est parce qu'on n'a que de vagues idées sur le ciel. On imagine une chorale de saints qui joue de la lyre dans un univers très spirituel. Et ça, c'est pas très enthousiasmant. La perspective de Paul est radicalement différente. Vous voyez le verset 20, une cité. Verset 21, un corps glorieux. Autrement dit, quelque chose de physique également, pas seulement spirituel. Rien de ce qui pourrit notre existence, rien de ce qui ruine notre joie et cette existence ici-bas n'aura de place dans cette nouvelle création. La promotion à la gloire, voilà un univers, un horizon grandiose. Voilà de quoi occuper nos esprits dès à présent. Voilà de quoi nous motiver également à ne pas éviter les souffrances de Christ, les souffrances que Christ a réservées pour ses disciples. Et si on croyait vraiment à cette promotion à la gloire, peut-être qu'avec Paul, on pourrait dire « mourir m'est un gain ». Passons quelques minutes à assembler les deux moitiés de notre passage d'aujourd'hui, si vous voulez bien. C'est sa vocation céleste qui amène Paul à avancer vaille que vaille, sans doute. Avancer, c'est une chose. Pourquoi courir ? J'aime à penser que si Paul court, c'est aussi pour éviter la pesanteur du monde qui l'entoure. Je m'explique. Les versets 17 à 21 insistent sur la pesanteur des réalités de ce monde. Réalité qui nous attire à la terre et qui nous attache à sa destruction. Ne surestimons pas notre capacité à traverser cette vie sans être affecté par cette attraction. C'est comme pour un archer. Celui qui veut atteindre sa cible doit viser un peu plus haut, car toute flèche tirée subira inéluctablement la pesanteur de la terre. Il en va de même pour le chrétien. Il nous faut rester en mouvement pour ne pas s'encroûter. Imaginez un passage boueux sur une route de montagne. La seule façon de traverser avec un véhicule, c'est de soutenir le rythme, vaille que vaille. Le véhicule qui ralentit sera très rapidement tellement embourbé qu'il ne sera plus manœuvrable. Combien de chrétiens connaissez-vous qui ont sans doute mis le pied sur le frein ? Qui ralentissent, qui regardent le paysage, qui s'absorbent dans les réalités de ce monde ? Parents, oncles, tantes, bons amis et autres, qui prennent ainsi le risque de s'embourber à jamais. Et nous, dans quelle mesure est-ce qu'on s'accroche à notre vie ici-bas pour faire durer le plaisir ? On peut choisir de rester sur nos trajectoires terrestres avec nos petites joies et avec les sujets de fierté auxquels on se raccroche pour ne pas perdre la face. Ou on peut se préparer à décoller. Mais si on s'apprête à décoller, il faut avoir les yeux rivés sur la piste. Autrement dit, les pensées terre à terre, c'est fini. Bien sûr, un tel état d'esprit, ça impliquera de la résolution. Dans bien des situations, la sécurité, c'est d'y aller lentement, de toucher à rien et d'en faire le moins possible. Et bien dans la vie chrétienne, c'est tout le contraire. La sécurité dont Paul parlait au chapitre 3, verset 1, ça n'est pas le statu quo. Ça n'est pas la vitesse de croisière. La sécurité, c'est de mettre le paquet sur Jésus-Christ. Et si on n'avait finalement que deux options pour la vie chrétienne ? Soit on est tranquillement mais sûrement en route vers la perdition, chemin faisant, absorbé par les réalités de ce monde, avec la fierté en Christ comme le cadet de nos soucis. Soit on s'efforce de courir dans la vie chrétienne tant bien que mal. On met sa fierté en Christ, on est plein gaz, en acceptant les souffrances qu'il nous est donné de souffrir pour Christ. Plein gaz à la suite de Christ serviteur et les yeux rivés sur la cité céleste que le Christ a inaugurée pour nous. Mes amis, quant à nous, adoptons ce slogan « Christ est ma vie et mourir m'est un gain ». Je propose de prier avant d'avoir un temps de discussion autour des questions que vous trouverez sur votre feuillet. Prions. Père Céleste, merci de ton avertissement qui nous est donné pour notre sécurité. De nous d'accepter les enjeux tels qu'on les voit présentés ici. Permets que nos yeux soient élevés vers les réalités d'en haut et qu'ainsi nous méditions sur tes promesses et imitions ceux qui avant nous ont couru la course. Nous te prions tout ceci afin que nous puissions tenir ferme jusqu'au jour du Seigneur. Et c'est en son nom que nous prions. Amen.